Bienvenue à bord.
Bonjour à tous, notre invité Claude Perron, auteur d'un livre sur les noms de bateaux de pêche au 19e et 20e siècle dans le sud Finistère. Et vous en avez retiré plusieurs thématiques, Claude. Hein.
Voilà, la première thématique, surtout de la période, c'est vraiment la famille et la communauté maritime qui est mise en avant.
Un reportage sur un festival itinérant en voilier, Festina Lente, vient de boucler une tournée de plus d'un an dans des ports français et étrangers.
28 artistes, marins, cuisiniers, scénographes, techniciens, à bord de 5 voiliers.
Et nous retrouverons nos chroniqueurs, dont Jean-Michel Guignier. Nous allons parler d'un guide sur ce que l'on peut ramasser sur la plage.
Et oui, on va évoquer tous ces objets qui sont déposés par les flots sur les grèves et que tant de promeneurs aiment ramasser le dimanche.
Merci Jean-Michel, à tout à l'heure.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Nous reviendrons dans un prochain magazine sur l'ouragan Irma qui a touché les Antilles. Classé en catégorie 5, c'est le plus fort qui ait connu cette région du monde. Il a occasionné d'énormes dégâts, dévastant les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et fait plusieurs victimes. Nous y reviendrons donc dans un prochain magazine. Notre invité aujourd'hui, c'est Claude Perron. Claude Perron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre sur l'évolution et l'usage des noms de bateaux de pêche au 19e et 20e siècle. Dans le sud Finistère, plus précisément au Guivinec, qui est un port de pêche très connu. Alors comment est-ce que vous avez travaillé pour cette recherche, Claude ?
J'ai relevé 1400 noms de bateaux, sur 10 000 bateaux immatriculés, et donc j'ai classé ces noms en thèmes. Alors le thème qui revient le plus souvent en moyenne dans la période des 150 ans, c'est la famille. La famille et tout ce qui a trait à la communauté maritime. Ce qui induit donc des choix de la part des patrons pêcheurs par rapport à leur outil de travail.
C'est-à-dire le nom de la famille ?
Ça peut être le nom de la famille, des prénoms, des surnoms, des diminutifs. Et donc on se met quelque part sous... Je ne dirais pas sous la protection du nom, mais le nom a une valeur symbolique par rapport au fait de ramener du poisson à la maison et de faire vivre la famille. Ah, une autre thématique très importante, c'est qui est plutôt actuelle, ce sont les toponymes, c'est-à-dire les noms de lieux. On appartient à un territoire et on le montre de manière symbolique. D'autres thématiques qui ont été importantes, par exemple, c'est la religion. Tout ce qui a rapport au sacré, avec une particularité locale, ce sont les noms de saints qui ne sont pas dans les calendriers.
Ah.
Voilà, les petits saints qui sont venus d'Irlande ou du Pays de Galles au 5e ou 6e siècle. Cette thématique-là, par exemple, a diminué très fortement après la guerre de 14-18. Donc j'essaye
Pourquoi
aussi d'analyser les raisons de cette chute. La guerre, déjà, pour commencer... la croyance en Dieu, je crois qu'elle s'est sérieusement effritée à ce moment-là. À cette époque, on est 30 ans après les débuts de la scolarisation Jules Ferry. Donc l'éducation fait que les gens réfléchissent un peu plus aussi. Et à cette époque-là, il faut le savoir, puisqu'il y a eu énormément entre 1885 et 1914 de conflits sociaux dans le milieu de la pêche, de la conserverie. Donc qui touchaient à la fois les hommes et les femmes. Les hommes en mer, les femmes à l'usine. Et donc, ils se sont rendus compte aussi que la hiérarchie religieuse était plutôt du côté des conserveurs et des usiniers qui ne donnaient pas le prix, son véritable prix à la pêche.
Peut-être un autre exemple de thème, on a parlé de la religion, du nom, de la toponymie. Est-ce qu'il y a peut-être des thèmes un peu plus originaux, un peu plus surprenants qu'on peut retrouver ?
Oui, des expressions. Des expressions, par exemple, pour se donner du courage pour aller en mer. On passe par toutes les étapes des états d'âme du marin quand il prend la mer.
Les vieux de chez moi ont des îles dans les yeux. Les mains crevassées par les chasses marines. Et les veines éclatées de leurs pupilles bleues. Portent les songes des frêles brigantines. Les vieux de chez moi sont fils de naufrageurs. Leur crâne pensif roule les trésors éblouis. Des voiliers brisés dans les poumons rageurs. et luisent leurs regards comme des louis. Les vieux de chez moi n'attendent rien de la vie. Ils ont jeté les ans, le harpon. Manger la cotillade et siroter l'eau de vie. La mort peut les prendre noirs comme pinasses. Observant le port, le jardin, l'hortensia, ils diront simplement au Jani, au Maria, adieu les belles, c'est le bon le bas, et les femmes des marins fermeront.
Dan Arbraz, Les Marins, le choix musical de notre invité que l'on retrouve dans un instant, juste après Gwendal Jaffry, rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, avec qui nous allons parler de deux jeunes patrons de vieux gréements en rade de Brest.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Et ces deux-là, armes deux voiliers du patrimoine.
Effectivement, des armateurs, parce que dans la marine, on arme les bateaux quand on les exploite. Donc, une belle histoire. Ils se rencontrent à bord de la Recouvrance il y a quelques années. Donc, la Recouvrance, un aviso de la ville de Brest, bateau emblématique du patrimoine maritime, un des plus grands bateaux relancés dans le cadre du concours Bateau des Côtes de France il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Ils sont marins à bord de la Recouvrance, puis ils se disent tout naturellement qu'ils aimeraient bien lancer leur projet. Alors, il y a de bonnes augures à l'époque, puisque la région Bretagne s'intéresse de près à ces bateaux du patrimoine et est prêt à les financer, à les aider pour les exploiter. La première chose. La seconde chose, qu'il y a une étude également de la région Bretagne qui montre que 60% des touristes s'intéressent de très près au patrimoine maritime, mais que seulement 11% d'entre eux ont l'occasion de naviguer à bord d'un bateau. Donc il y a un potentiel, il y a un marché qui est important. Et puis surtout, ce sont deux amoureux de la rade de Brest qui ont vraiment envie de faire découvrir cet endroit. Cet endroit qui est même un peu assez méconnu de la part des gens qui vivent même à côté et qui est pourtant d'une richesse incroyable, puisqu'il y a une quantité de mouillages, de balades sur l'eau, etc., qu'on peut tourner pendant une semaine dans la rade de Brest sans jamais passer deux fois au même endroit et sans se lasser. Bref, ils se lancent dans leur aventure et tous les deux de manière différente. Le premier va exploiter un bateau qui s'appelle le Dalmat, qui est un bateau qui a été reconstruit pour une association de la ville de Landerneau, un bateau qui est un borneur, donc qui fait du transport dans la rade de Brest. Donc il va quelque part permettre à cette association qui avait un peu le bateau sur les mains de lui voir une nouvelle vie, lui donner une nouvelle vie. Le second a une aventure qui est encore plus incroyable avec un bateau qui s'appelle Lokmona, qui veut dire Logona d'Aoulas en breton.
C'est juste à côté de Brest.
Voilà, on est juste à côté de Brest. Et Lokmona, en fait, c'est un bateau un peu particulier. C'est pas un voilier, c'est un bateau qui a été conçu pour le moteur, mais il va être recréé dans le cadre de ce projet avec un gros chantier. C'est quand même, on se retrouve avec donc Yann Roger, qui est le patron de ce bateau, quand Maël Théry réarme le borneur de Landerneau. Yann Roger, lui, se retrouve à investir quand même 120 000 euros. C'est un gros projet qu'on a une petite trentaine d'années. Et les deux bateaux vont commencer à tourner en 2012, tous les deux d'une très belle manière, ils naviguent énormément et 5 ans plus tard, ce qui est assez génial dans leur histoire, c'est que le pari n'est pas encore tout à fait gagné parce qu'il faut finir de rembourser les emprunts, mais le pari est déjà quasiment gagné. Ils ont réussi à faire tourner leur bateau régulièrement avec un public de touristes, avec également un public scolaire. Ils ont réussi à faire tourner leur entreprise, mais également leur bateau, puisque ces bateaux du patrimoine, on sait bien qu'un bateau qui navigue est un bateau entretenu, et quand un bateau ne navigue plus, il s'abîme irrémédiablement au port. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour les bateaux du patrimoine. Et c'est aussi une belle nouvelle, quelque part, pour l'avenir du patrimoine maritime, puisque tous les deux ont une trentaine d'années. Donc ce sont deux jeunes patrons armateurs, quand souvent on a l'impression que c'est un peu le domaine réservé aux tempes grises. Ils sont tous les deux jeunes, ils ont tous les deux énormément d'envie autour de leur bateau, et puis surtout, alors certains leur ont fait le reproche en leur disant « oui, mais Loch Mona n'est pas un coquillier à voile, c'était un bateau à moteur, etc. » Soit, effectivement, sauf que quand on les voit naviguer, quand on les voit transmettre leur passion, quand on voit leur enthousiasme, il y a beaucoup de grands amateurs du patrimoine maritime, de soi-disant amoureux du patrimoine maritime, qui vendent beaucoup moins bien le patrimoine français qu'eux ne le font à bord de Loch Mona et du Borneur de Landerneau d'Almade.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Nous retrouvons notre invité Claude Perron pour continuer de parler de l'usage et l'évolution du nom des bateaux de pêche au 19e et 20e siècle au Guilvinec, port de pêche du sud Finistère. Alors nous avons évoqué les différentes thématiques que nous pouvons retrouver. Autre élément important que vous avez identifié, Claude, c'est cette communauté qui se retrouve.
Donc je pense que l'ensemble des noms, donc des 1400 noms que j'ai trouvés là, avec leurs différentes thématiques, nous indiquent que les marins-pêcheurs, les patrons-pêcheurs, toute la communauté maritime se retrouve à travers ces noms. Ces noms sont aussi des signes de reconnaissance. Moi-même, quand je vais sur les quais du Guilvinec, les anciens me reconnaissent par le nom du bateau de mon père, de mon grand-père avant, qui était le surnom de mon grand-père. Donc, c'est quelque chose qui est implicite à la société maritime du Pays Bigouna. Et je pense qu'ailleurs aussi. Par exemple, on a l'exemple très connu de Ange Biche à l'île de Groix. Il s'appelle en réalité à l'état civil Ange Stéphan.
Le Biche.
Mais c'était le patron du Biche, le fameux tonnier. Tout ce corpus de noms, pour moi, ça constitue une sorte de bibliothèque ou de littérature sans grammaire qui a ses règles. Et bon, parfois ce sont juste un mot, parfois ce sont deux mots, parfois c'est une petite expression, ça peut être une petite phrase. Mais ils se suffisent à eux-mêmes, mais quand on les rajoute, on les empile, on arrive à en tirer un certain nombre de choses. Et donc moi je classe ça, bon, mon étude est de type un peu ethnologique, et je classe ça dans le patrimoine culturel immatériel.
Là on parlait du 19e et 20e siècle, on se rend compte qu'aujourd'hui on retrouve pas forcément ce qu'on a vécu il y a 150 ans.
Alors,
quoi.
Pour donner un exemple concret, il y a aussi des choses qui sont en rapport avec la société actuelle. Hein.
Bon, comme par exemple
Il y a quelques années, un patron pêcheur du Guilvinec a appelé son bateau le petit rapporteur, et Jacques Martin est venu au baptême du bateau, par exemple.
En lien avec la société et ce qui se passe dans la société.
On a eu un bateau qui s'appelait Mistral Gagnant aussi. Bon, ça parle à tout le monde.
Merci Claude Perron. Plus d'infos sur votre site claude-perron.infini.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
C'est une journée particulière qu'ont vécu 5 résidents d'un EHPAD de Cherbourg. 3 femmes et 2 hommes âgés de 78 à 92 ans ont pu prendre la mer grâce à un bateau spécialement équipé pour embarquer les personnes handicapées et dépendantes. Une sortie encadrée par l'école de voile de Cherbourg et un personnel formé et sensibilisé. Reportage de Jacqueline Fardel.
Allez, on monte sur la planche. Voilà, super.
C'est un bateau qui est très sécurisant, qui est très marin et qui permet aussi de recueillir des parapégiques et peuvent tout à fait se mouvoir de l'avant à l'arrière sans qu'il y ait d'obstacles pour les gêner. C'est un bateau qui est vraiment très très sympa à la navigation, quoi. Et qui est rassurant pour tous les néophytes en fait, qui découvrent la voile.
Non, j'aime bien les bateaux, c'est agréable, c'est que du plaisir.
De sortir un peu de la chambre.
Oui, c'est vrai, ça change. On sort pas tellement là-bas.
On est prêt pour la croisière. Alors on va où ?
Avez-vous une préférence ?
Ça fait drôle. C'est l'appréhension. Il y a du plaisir aussi. C'est bien.
Oui, vous commencez à voir le pied marin là. Mais bon.
Voilà, tranquillement. On se baisse un peu.
Regardez, vous avez les poissons, ça saute.
Oui. Oh là là.
Vous étiez déjà monté sur un bateau ?
Oui, une fois. Ouais, je suis content. Ça me fait. Ça me détend.
Vous êtes tout équipé ?
Oh, en chaussons.
Le gilet de sauvetage, le chapeau quand même. Et la crème solaire.
Ah, le chapeau. Ça ne doit pas le taper à ce point-là.
Vous ne voudrez pas prendre des coups de soleil ?
Ah ben si, je voudrais bien parce que je dirais que j'ai été aux îles Baleines.
Et voici Jean-Michel Guigné qui va nous parler d'un guide qui s'appelle « Sur la plage abandonnée ».
Bienvenue à bord.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jérôme.
C'est un guide qui recense ce que l'on peut ramasser sur la plage.
Eh oui Jérôme, parce que c'est vrai que l'hiver arrive, les tempêtes hivernales qui déposent leur lot d'objets sur la plage. Alors il y a beaucoup de gens qui aiment bien se promener sur les plages l'hiver pour ramasser des morceaux de bois, des déchets, des choses qui sont rejetées par la mer. D'ailleurs les Anglais appellent ça des beachcombers. Ce sont justement des Anglais qui ont écrit un guide qui recense en fait tous les objets que l'on peut trouver sur la plage. Alors ça va évidemment des algues en passant par les morceaux de bois, comme je le disais. Et dans ce guide, on va pouvoir identifier les objets qu'on trouve. Alors, les bois flottés, c'est un inventaire, je dirais, exhaustif. Il y a des photos de tous les objets qui ont été récupérés sur différentes plages. C'est un livre de 300 pages. Alors, ce livre, il se veut aussi, je dirais, éducatif, parce qu'il parle d'écologie. Il donne des explications, évidemment, sur les déchets plastiques, mais aussi sur l'importance de ne pas ramasser tous les déchets qu'on trouve sur la plage, parce que certains servent aussi d'abri pour la faune. Alors, c'est vraiment un livre qui va servir à tous ceux qui ont envie de collectionner et d'identifier les objets qu'on trouve sur la plage. Son titre est facile à retenir, hein, « Sur la plage abandonnée », ça évoque la fameuse chanson de Brigitte Bardot.
Ouais.
Voilà, donc là, Brigitte Bardot n'est pas dans le coup. C'est aux éditions Delachaux et Niestlé, petit éditeur. Ça coûte 24 euros, c'est 300 pages, donc c'est vraiment un véritable guide bien complet. Donc pour tous ceux qui ont envie de se promener sur la plage, là, l'hiver arrive, on va trouver beaucoup d'objets. Je vous le conseille.
Merci Jean-Michel, on se retrouve dans quelques instants pour parler du terme maritime.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Un festival itinérant en voilier, c'est l'idée lancée par une trentaine de jeunes artistes. Ils viennent de boucler leur tournée qui a duré plus d'un an dans des ports français et étrangers. Ils proposent plusieurs types de spectacles. On en parle avec trois d'entre eux, à commencer par Soisy, qui est l'une des artistes à l'origine du projet.
Alors Festinalente, en 2013, il y a un collectif qui s'appelle La Fac qui lance une première tournée de 2 mois et demi en Méditerranée qui s'appelle L'Armada. Et après ça, une dizaine des 70 participants de cette première tournée se rassemblent et réfléchissent à une version plus viable et plus longue et plus étalée géographiquement d'une tournée en voilier. 28 artistes, marins, cuisiniers, scénographes, techniciens, caméramans, illustrateurs, couturiers, à bord de 5 voiliers. Le but pour nous, c'est de donner vie à un gros laboratoire artistique. On est des artistes amateurs. On a envie d'expérimenter le mode de transport à la voile, le mode de vie aussi un peu plus lent, un peu plus raisonné par la mer. Et pour les détails par rapport à la flottille, le côté marin, il y a justement Robin qui est là, qui est capitaine du Djellali, qui va pouvoir vous expliquer ça en détail.
Le plus petit fait un peu moins de 10 mètres, le plus grand pas loin de 18 mètres, et la majorité en acier. On a 4 bateaux acier et un en polyester, le plus petit, le plus léger. On détaille un petit peu, il y a le Viva Binga qui accueille 3 personnes. MAP et l'oiseau de passage qui sont dans la catégorie des 11-12 mètres pour 5-6 personnes. Le Jonathan qui est un peu plus gros et le dernier, Djellali, sur lequel on est, qui est une réplique du Josua mais vachement plus grande. Enfin, il fait 1,5 fois la taille. Il était dessiné par le même architecte, construit par le même chantier, pensé par moi Tessier pour un programme plus familial. Alors c'est vrai que nous on est un peu en famille. Sur ce bateau on est en général 8. Mais voilà, donc c'est un ketch en acier à clin, arrière norvégien, qui est gréé en ketch. Donc on a 2 mâts, on a changé exprès le mât d'Artimon pour faire un bateau très solide, et c'est sur ce bateau qu'on fait des spectacles aériens notamment. On fait du funambulisme entre les mâts. Il est vraiment adapté au spectacle. Donc Jeanne pourra vous détailler un petit peu ce qu'on propose.
Oui, alors du coup, pour expliquer un peu comment se passent les spectacles, tout d'abord, en fait, du coup, on joue à chaque escale dans les ports où on arrive. On demande la gratuité du quai pour pouvoir implanter nos 5 voiliers. Et du coup, on joue devant ces voiliers, sur le quai et sur les bateaux. Donc le Djellali, c'est vraiment le Djellali Trix, qui est le nom du spectacle qui joue sur ce bateau. C'est vraiment le spectacle qui utilise les mâts du bateau, qui utilise l'univers de la voile, avec des circassiens, des aériens, avec de la musique. Voilà, donc du coup, après, sur tous les autres spectacles et sur la totalité du projet, c'est vraiment une implantation où du coup, on installe une cuisine, un bar, et on relie en fait tous les éléments de toutes les compétences de chacun qui sont très variées.
Et tout ça dans une bonne ambiance. Allez, on termine avec le terme maritime à retenir. Le terme que vous avez choisi, Jean-Michel Guénier, c'est ababouiner.
Ababouiner, en effet, c'est un terme qu'on n'entend pas très souvent. On dit plus souvent, il est vrai, encalminer, mais j'aime bien ce mot, ababouiner, qu'on trouve d'ailleurs beaucoup dans la littérature maritime. Ça signifie tout simplement que lorsqu'un bateau est ababouiné, il est à l'arrêt en pleine mer, prisonnier d'un calme plat.
Merci Jean-Michel, c'est la fin de ce magazine. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et à dimanche prochain. Au revoir.